Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et puis aujourd'hui, Aline et moi-même avons toujours le plaisir d'accueillir Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour chers amis.
Alors nous allons quitter l'hôtel d'Ulmo, nous allons nous déplacer quelques rues plus loin et nous allons à l'hôtel du Vieux Raisin aujourd'hui, dans cette chronique Demeures et Familles.
À l'adresse qui est actuelle, 36 rue du Languedoc, en face pratiquement du marché des Carmes.
Alors, pour l'hôtel d'Ulmo, on avait le nom du constructeur. Mais pour le Vieux Raisin...
Ah, le Vieux Raisin, ce n'est pas le nom d'une famille.
J'imagine.
Mais peut-être, nous dit Chalande, toujours notre source oui. du 19e siècle, le nom d'une taverne qui possédait une ancienne avec une grappe de raisin, figurez-vous.
Ah, très voilà. bien.
Alors, cet immeuble, que nous voyons bien d'ailleurs, parce que il est visible de la rue, contrairement à beaucoup d'hôtels qui sont fermés aux visiteurs,
aux passants. Du Languedoc.
Du Languedoc, hein, près du carrefour, encore une fois, de la place des Carmes, enfin, de ce carrefour-là. Eh bien, on voit une belle façade très, très ornementée, très décorée, dont on va donner beaucoup de détails dans cette chronique, avec le temps qui nous est imparti. Mais il faut savoir que Vieux Raisin a été le nom retenu après une succession de propriétaires qui, elle-même, cette succession de propriétaires, vient après la division d'un grand hôtel gothique tardif, deuxième moitié du XVe siècle. Et de cet hôtel tardif, qu'on appelle l'hôtel Daus, hein, du nom de son créateur au XVIe siècle, il reste deux éléments de façade sur la rue de Sargues, qui elle-même, hélas, parce qu'on est obligé de citer le nom de notre cher ami Théodore Ozène, ami pour patrimoine toulousain, son nom a été utilisé, ou en tout cas baptisé.
Oui, pour la rue qui a éventré ce grand hôtel.
Ce grand hôtel et un certain nombre d'autres. Je rappelle que la rue Ozène relie le carrefour des Carmes au boulevard et au jardin royal, enfin au jardin public.
On a toujours du mal à penser que les très belles façades sont en fait des intérieurs.
Derrière, bien sûr.
Et, voilà.
Et ces deux façades gothiques sont semblables. Donc, sur la petite rue qui a été rebaptisée en nom de Paul Félix, mais qui, à l'origine, c'était la rue de Sargues qui allait jusqu'à la rue du Languedoc, on trouve bien des éléments gothiques tardifs, machicoulis,
qui sont les restes de ce grand établissement.
Exactement. Oui. Donc, on oublie, si vous voulez, aujourd'hui l'hôtel Daus, où se trouve la tour de Tournoire, qui est, en partant des Carmes, sur la partie gauche, au début de la partie gauche.
Avec sa tour caractéristique.
Sa tour, voilà.
Donc, qui est le Crédit Agricole, je crois.
Je crois, également. Et on se tourne sur la partie droite de la rue Ozène, où on distingue une façade assez triste encore, elle n'a pas été restaurée à ma connaissance, mais qui témoigne des aménagements qui ont été faits par l'acquéreur de ce démembrement, de cette partie de l'hôtel Daus au début du XVIe siècle, et qui s'appelle Béringuier-Meynier. Et c'est ce second nom qui est souvent donné, dont on se rappelle moins que Vieux Raisin, mais c'est bien celui qui colle, qui est le créateur, si vous voulez, de l'hôtel dont nous parlons aujourd'hui au 36 rue du Languedoc. Voilà. Donc c'est lui qui va...
Parlementaire ou
c'est C'est un homme de loi. Il fait un petit peu... il distingue un peu nos prédécesseurs parce que, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. C'est un homme de loi, il est capitoul, donc il accède quand même aux responsabilités. Juge d'appôt, encore jeune, 1475. Et je me trompe parce que c'est pas lui, c'est Daus qui a été à ses fonctions. Mais je veux dire, Béringuier-Meynier était professeur de droit et capitoul également en 1515-1516. Donc il n'est pas connu pour être un parlementaire de premier plan. En revanche, il a dû marier à la descendante du seigneur de Canac et du seigneur de Galice, avoir également une maison de campagne à ce moment-là et des revenus. Donc il acquiert l'immeuble en 1515, on voyait encore cette date qui a été effacée au siècle dernier, et c'est lui qui transforme dans les années 1515-1528 le vieux logis gothique, fait travailler un artiste inconnu, mais il y a tout de même les initiales B M, et crée cette arrière-cour, si vous voulez, qui donne sur la Lozenne dont on parlait à l'instant, avec tout un langage de première Renaissance. Voilà. Donc, il ajoute dans la cour qui donne sur la rue de Languedoc la grande tour scaligère, la tour d'escalier qui est à gauche, et une tour de service qui est à droite, qui est moins ornée. Il a fait orné par cet artiste de bustes en médaillon et également de très très belles fenêtres avec des arabesques, des ramures, tout un langage, si vous voulez, qui serait un petit peu long de développer, mais qui est celui de la première Renaissance et de Fontainebleau.
Donc un hôtel dont on remarque la qualité que vous venez d'évoquer en termes de décor.
Hein, de décor de pierre sculpté.
Oui. C'est le signe de quelqu'un à la fois qui a du goût, mais qui a aussi des moyens.
Voilà, et qui a des moyens, mais qu'il est difficile de lui attribuer. Hein. Tous nos historiens lui attribuent les premiers travaux. Mais la qualité, si vous voulez, du décor est aussi répartie avec les successeurs, qui sont, à partir de 1547, donc au milieu du XVIIe siècle, Jean Burnet, qui, lui, n'est pas connu comme étant un aristocrate ou une ancienne famille. Mais il a acquis par la voie juridique, la carrière juridique. Il est greffier civil au Parlement. Et c'est lui qui va compléter le décor de la façade. Il donne, et surtout la loggia qui est sur la rue,
ah oui, hein,
avec le grand portail. Mmh. Voilà. Est-ce qu'on connaît ces armes, je crois? Alors, ces armes, on les trouve dans le chaland, d'azur au griffon ailé grimpant d'or. Voilà, je pense que c'est...
Toujours très poétique.
Oui, 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 oui.
Enfin, il y a une notion d'ascension.
Oui.
Bon, sa femme, elle, porte au chevron chargé de 3 coquilles, accompagnée de 3 étoiles, 2 en chef et 1 en pointe.
Bon.
C'est pour donner un peu de chair à tous ces personnages.
Oui, 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 mais vous allez ravir les héraldistes qui nous écoutent.
Donc, en fait, on est dans ce moment, si vous voulez, du XVIe siècle où il faut mettre en valeur, il faut plutôt montrer aux passants et aux visiteurs, bien sûr, aux invités, sa culture humaniste. Et non pas, il faut que ça soit solide. Bon, le logis Renaissance, le corps de logis est ancien. Mais tout ce décor, voilà, doit par le langage, révéler des choses qui ne se disent pas comme ça. Et on arrive à l'apogée, je dirais, de l'hôtel du Vieux-Rizin avec l'acquisition par un homme d'église qui est l'évêque Pierre de Lancros, dont on ne sait pas grand-chose.
Bon. Qui a été un évêque de Toulouse?
Alors il est évêque de Lombès.
De Lombès.
Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Mais Chaland lui attribue beaucoup de réalisations justement d'ornements, hein, sur la façade. Donc on peut être évêque, même d'un diocèse un peu plus modeste que celui de Toulouse, et exercer ce langage humaniste.
Oui, mais les commandes de l'Église ont été vraiment très, très, très présentes dans l'ornementation et même la construction des... Ouais. D'édifices, voilà. Mais là, c'est un édifice.
Pour ne prendre qu'un exemple, un vieillard qui supporte un entablement et dont la partie basse du corps est une gaine, donc
oui.
Un vieillard, un terme engainé, pour vous, ça représente quoi? Est-ce que c'est... Moi, ça m'évoque, oui. Vous savez, La Belle et la Bête de... voilà.
Oui.
Le film de Jean Cocteau. Oui, absolument. Bon,
donc cet évêque va le garder un certain temps?
Il ne va pas le garder longtemps. Il en est 20 ans tout de même, hein, tout à fait à la fin du XVIe siècle. Et il teste en faveur d'un prévôt de Saint-Étienne qui est Jean d'Affis. Alors là, très très relié aux principales places du Parlement. Lui-même ne va pas le garder longtemps et le vend en 1614 à Jean de Ménial, qui est conseiller secrétaire du roi, également fils de Capitoule, qui fait un très joli mariage avec Marguerite de Châtenay de Puységur. Voilà. Donc, à partir de là, on va retrouver des familles plus classiques. Avec des jolis noms, avec des noms qui évoquent des seigneuries, des terres. Et effectivement, en 1642, le fils de cette personne est Hérald du Ménial, seigneur de Mourins. Il porte d'azur chevron d'or, accompagné de trois losanges du même, deux en chef et un en pointe. Voilà. Et après, par voie de succession, elle apporte en dot, sa fille apporte en dot à Balthazar d'Ossagel de Lasbordes. Et c'est également un des noms.
L'hôtel de Lasbordes ou du Vieux Raisin.
Exactement. Merci, Aline.
Et là, on est au XVIIIe siècle.
Alors, on va arriver au XVIIIe. On est en plein XVIIIe siècle, hein, dans, encore sous Louis XV. Et lui va développer un peu comme, vous rappelez, les Puymorins à Cézat. Il va mettre au goût du jour, sans défigurer la façade, dont on sait, on connaît la richesse,
la qualité,
la richesse, mais on va tout de même, ça c'est une marque du XVIIIe, agrandir les fenêtres et les dépouiller de leurs croisillons et de leurs meneaux. Voilà.
Oui. À l'intérieur, faire entrer le jour.
Faire entrer les lumières et le jour surtout. C'est très pragmatique. On n'est pas très loin de l'électricité. Enfin, voilà. Et donc, il va créer un élégant salon au rez-de-chaussée dans le goût de Louis XVI et également une cheminée. Il va arranger une cheminée qui est tout à fait représentative de cette période. Il est parlementaire à la mauvaise période puisqu'il fait partie de la charrette qui va être emmené à l'échafaud, puis à Picpus, enfin enterré la fosse commune de Picpus en 1794. Et ces biens, donc à ce Balthazar d'Ossagel de Lasbordes, seront saisis et vendus en 1796 à un certain Jacques Fajon qui est banquier. Après lui, au 19e siècle, il ne va pas le garder longtemps, on trouve plusieurs familles, que je ne vais peut-être pas toutes citer, mais c'est en 1875 qu'un notaire, Isidore Gay, qui l'acquiert, donc va y apporter des aménagements, j'allais dire...
substantiels.
De l'époque. Des pastiches. Il va essayer des pastiches.
Oui.
Et notamment, en cela, il va être aidé par Virbin. Il va créer des céramiques, copiées sur...
Qui va estamper,
copiées sur les médaillons de Saint-Bertrand de Comminges,
Ce qui est frappant, c'est que malgré ces interventions successives et assez éloignées dans le style, on a quand même une grande homogénéité de cet hôtel. Merci beaucoup, Michel, de nous l'avoir évoqué avec autant de brio.
Merci, Aline. Merci, Sébastien.
Rendez-vous tous devant cet hôtel pour en admirer les façades et en faire le tour. Bonne semaine.